8h, le journal Emmanuel Caplain. Bonjour Emmanuel. Gaëtan Plenet.
Bonjour Gaëtan. Eric.
Avec la COP26 et les enjeux pour la planète, la COP26 qui démarre aujourd'hui à Glasgow.
Les dirigeants mondiaux vont discuter des moyens pour réduire le réchauffement climatique. Un sommet à la sauce britannique très important pour le Premier ministre Boris Johnson. Cette information France Inter, Gérald Darmanin abandonne le projet Scribe, ce nouveau logiciel de rédaction des plaintes qui devait être déployé dans les commissariats et qui aura coûté pour rien 12 millions d'euros. Nouvelle journée sanglante hier au Soudan où des manifestations protestant contre le coup d'état militaire ont été violemment réprimées. Une heure de sommeil en plus et une heure de soleil en moins. On est passé à l'heure d'hiver cette nuit. On parlera des conséquences pour notre sécurité. Et puis le sport à la fin de cette édition avec notamment ce record battu hier en Ligue 1, celui du but le plus lointain jamais mesuré dans l'histoire du championnat. Il est signé Wabi Kazi pour Saint-Etienne.
Et puis à 8h20, notre invité sera Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé Place Publique.
France Inter.
De Rome à Glasgow, après le G20 qui s'achève aujourd'hui en Italie, c'est vers l'Écosse donc que les dirigeants mondiaux sont attendus pour la COP26.
À quelques semaines seulement après le rapport alarmant du GIEC, l'objectif est aussi ambitieux qu'urgent, limiter la hausse des températures à pas plus d'1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle pour éviter de nouvelles conséquences dévastatrices. Un enjeu très lourd sur les épaules de l'hôte de cette conférence, le Premier ministre britannique Boris Johnson. Nous irons à Londres dans un instant pour en parler, mais avant tout, illustration sur ce que l'on peut faire au niveau local en cette veille de Toussaint. Reportage dans un cimetière de la métropole lilloise à Mouveau, cimetière qui applique la méthode zéro pesticide. Olivia Cohen.
Depuis l'abandon des pesticides, Messaoud, l'un des jardiniers, vient régulièrement désherber avec sa débroussailleuse. Et régulièrement, il entend les visiteurs râler.
Ben, comme quoi qu'ils ne sont pas contents parce qu'il y a ça, il y a ça qui pousse aussi. Ben, après, on ne peut pas aller plus vite que la musique, on va dire.
Ça pousse vite, trop vite, alors que désherber un cimetière de 3000 tombes, c'est long, très long. François Charlet est responsable du cimetière.
Chaque mois, on est à 230 heures de désherbage. Et ici, pour la Toussaint, un peu plus de 300 heures pour avoir le résultat qu'on a aujourd'hui.
Et ce qui prend le plus de temps, c'est le chiendent et les pissenlits qui poussent au milieu des graviers, dans les allées. Il faut les arracher à la main, alors la solution. Ça va être de retirer le gravier.
Pour le remplacer par une semence de gazon qui pousse pas très vite, justement pour pas avoir un entretien non plus toutes les semaines. Quoi.
Finalement, pour Diane Racotto, qui gère le pôle développement durable à la mairie, il faut simplement s'habituer à avoir des pelouses un peu plus hautes.
Ben nécessairement, il y a des fleurs qui vont apparaître et il y a toute une nature insoupçonnée qui va se développer. Et ça va donner une nouvelle image à notre cimetière.
À terme, l'idée, c'est d'en faire un lieu de vie, un parc presque. 20 000 euros seront investis sur 3 ans pour donner ce nouveau visage plus vert au cimetière.
Un reportage France Bleu Nord d'Olivia Cohen dans ce cimetière pionnier, puisque d'ici juillet 2022, les pesticides seront interdits dans tous les cimetières. L'environnement, donc la préservation de la planète, c'est ce qui va être discuté à partir de ce dimanche et jusqu'au 12 novembre à Glasgow pour la COP26. Glasgow, Écosse, Royaume-Uni, Premier ministre Boris Johnson, et l'enjeu est particulièrement important pour lui. Alors il a fait cette conférence, Richard Place, un rendez-vous majeur de son calendrier.
Il en parle depuis des mois, depuis la fin du G7 en juin dernier. En Cornouailles, le Premier ministre britannique parle de la COP26. Ce sommet colle parfaitement à l'image qu'il veut donner du Royaume-Uni post-Brexit. Un pays leader, celui qui accueille les grands de ce monde et qui donne l'exemple. Mais pour briller cette fois, Boris Johnson doit sceller un accord, des promesses, emporter l'adhésion des autres États. Là-dessus, il reconnaît aujourd'hui que ce sera très très dur, ça pourrait mal tourner, dit-il. Converti tardif à la cause environnementale, il doit aussi faire face à une majorité parfois réfractaire. Parmi les députés de son camp, les conservateurs, certains misent bien plus sur les emplois actuels des énergies fossiles que sur les projets et les promesses d'embauche du renouvelable. Ceux avec lesquels Johnson n'entend pas transiger, ce sont les militants écolos qui manifestent depuis plusieurs semaines dans le pays, coupant des routes et des autoroutes en s'asseyant sur la chaussée. Des hargneux irresponsables, selon lui. Londres, Richard Place, France Inter.
Et avant de faire face à ces militants écologistes, le Premier ministre britannique fera face à Emmanuel Macron ce dimanche. Les deux hommes doivent se rencontrer à Rome en marge du G20. Plusieurs dossiers sur la table. Le plus brûlant, la pêche post-Brexit. Elle empoisonne les relations franco-britanniques depuis des mois. Paris exige plus de licences pour ses pêcheurs. C'est un non catégorique pour Londres et les deux capitales se menacent mutuellement de prendre des mesures. Les deux dirigeants doivent également aborder la question épineuse de la migration irrégulière dans la Manche.
À la une également ce matin, ce fiasco pour la police française.
Un fiasco à l'ardoise salée, hein. C'est une information France Inter, 12 millions d'euros dépensés pour rien. Après l'abandon du projet Scribe, ce nouveau logiciel de rédaction des plaintes, il devait être déployé dans les commissariats dès l'année dernière, présenté alors comme plus moderne, plus intuitif, en raccord aussi avec la révolution numérique. Ah oui, mais il ne verra donc pas le jour, Emmanuel Leclerc.
Ce n'est pas le plus gros fiasco que l'on ait connu côté financier, confie un responsable syndical policier, mais c'est le plus symbolique car il touche au principal outil des enquêteurs, le logiciel de rédaction des plaintes, LRP. L'actuel est au-delà de ses limites, pas du tout intuitif, un vrai repoussoir. Scribe, lui, est né officiellement le 9 novembre 2017. Son nom avait été trouvé par un enquêteur après un concours d'idées en interne au sein de la police. Le marché est passé avec la société Capgemini et pour la première fois, des enquêteurs de terrains sont associés. Sauf qu'au bout de 2 ans et demi, le chef de projet quitte la société prestataire avec la moitié de son équipe. L'année dernière, Capgemini réalise un audit et conclut que le projet va dans le mur. Ces dernières semaines, furieux, les hauts responsables de la police nationale font leur compte. 11 700 000 euros partis en fumée, salaire des policiers détachés compris. Selon nos informations et après plusieurs réunions, y compris en présence du ministre de l'Intérieur qui a repris le dossier en main, un nouvel appel d'offres sera passé prochainement avec une autre société prestataire pour un nouveau Scribe, mais à l'horizon 2024.
Et plus de précisions sur franceinter.fr. Un nouvel incident lié à la chasse. Un automobiliste de 67 ans a été grièvement blessé hier en Ille-et-Vilaine. Il a été touché par un tir d'arme à feu alors qu'il conduisait près de Rennes. Atteint au cou, il a été hospitalisé dans un état critique. Son pronostic vital est engagé. Un chasseur a été placé en garde à vue et une enquête est ouverte pour blessure involontaire.
Plus qu'un incident, c'est même un accident. Au moins 3 morts hier au Soudan, des centaines d'autres personnes blessées.
Une journée de manifestation pourtant pacifique contre le coup d'État de lundi pour réclamer le retour du pouvoir aux civils, la libération des prisonniers politiques aussi et celle du Premier ministre Abdallah Hamdok, toujours assigné à résidence. Ils étaient des dizaines de milliers dans les rues du pays. Les militaires et les forces de sécurité ont dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène, tirant même à balles réelles. Reportage de notre correspondant Elliot Brachet.
Ahmad tient dans sa main les douilles de Kalachnikov et de mitrailleuse Dushka ramassées par terre après que l'armée et les forces de soutien rapide ont ouvert le feu à balles réelles sur la foule. Le jeune homme a le regard dans le vide.
Je suis en colère. Burhan dit qu'il veut protéger le peuple soudanais, mais ses forces ont tiré sur tout le monde. Les femmes, les enfants, les anciens. Pourquoi ? Je veux comprendre. Il ment lorsqu'il dit qu'il veut que le pays soit dirigé par des civils. Sur quelle base ? Alors qu'il tue des gens dans la rue.
Il se tient au milieu des pneus brûlés. Autour de lui, quelques irréductibles relèvent des barricades. Il y a quelques minutes encore, cette avenue à l'est de Khartoum était noire de monde. Un ingénieur qui rentre chez lui après avoir amené des blessés à l'hôpital en rage.
Des manifestants pacifiques ont été visés par des balles. La communauté internationale doit faire quelque chose, mettre la pression sur les militaires. Tout le peuple soudanais refuse complètement la présence des militaires au pouvoir. Il faut que le pouvoir soit rendu aux civils le plus vite possible.
Les Nations Unies et de nombreux pays avaient mis en garde les généraux putschistes contre l'usage de la force. Les chancelleries estimaient que ces manifestations seraient un test sur les intentions des militaires. Au vu de la répression d'hier, leurs intentions sont plutôt claires. Eliott Brachet, Khartoum, France Inter.
En Afghanistan, première apparition publique pour le chef suprême des talibans, le Mollah Hébatoullah Akhundzad. Il ne s'est jamais exprimé en public depuis sa nomination en 2016. Et il l'a fait donc lors d'un rassemblement dans une école coranique de la province de Kandahar. C'est ce qu'annonce le gouvernement des talibans. Aux Philippines, la police annonce la mort d'un journaliste. Il a été tué par balle à son domicile sur l'île de Mindanao. Une enquête est ouverte. C'est déjà le 21e journaliste tué dans l'archipel depuis l'arrivée au pouvoir en 2016 de Rodrigo Duterte.
Il est 8h09 sur France Inter, j'ai bien dit 8h09.
Et oui, pas 9h, hein. Si ce n'est pas ce qu'indiquent vos montres, eh bien il va falloir les remettre à l'heure d'hiver. On y est passé cette nuit, un changement qui a des conséquences sur notre rythme, mais aussi sur notre sécurité. Et oui, il fait noir plus tôt, juste au moment où l'on sort de classe ou de bureau, avec donc des risques d'accidents. Bonjour Mathilde Daimi.
Bonjour.
L'hiver, on a beaucoup plus d'accidents avec des piétons.
Le danger est d'ailleurs le même pour les vélos et trottinettes, mais pour les piétons, on a des chiffres précis de la sécurité routière. Près de la moitié des piétons tués chaque année le sont entre novembre et février. Et ce pour une bonne raison, la visibilité. On est peu nombreux à en avoir conscience. Nabila surveille dans la pénombre son fils en trottinette.
Je me suis jamais posé la question si on est assez visible pour les autres personnes ou pas. C'est dangereux même pour lui. Regardez, il a la trottinette et il n'était pas assez visible même pour mon mari. Du coup, il peut avoir un accident facilement, quoi.
Vous êtes habillée comment ?
Avec une doudoune noire, mon mari aussi une veste noire et mon fils aussi.
Et cette question de la couleur de nos vêtements est importante. L'association Prévention Routière a fait ses calculs. En noir, vous êtes visible à 25 mètres, 40 mètres si vous portez du beige clair et 150 mètres avec des équipements réfléchissants.
Alors qu'est-ce que ça veut dire Mathilde ? Ça veut dire qu'il faut qu'on s'habille tous en blanc pendant l'hiver ?
Ça serait l'idéal, mais pas très à la mode. Il existe d'autres solutions que certains pays ont même rendues obligatoires. Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière.
Il y a, par exemple, en Allemagne, une norme qui impose sur les cartables un minimum de 10% de matériaux réfléchissants et de 20% de matériaux fluorescents. C'est de base, donc ça veut dire que les designers de ces sacs, eh bien, ils intègrent tout de suite ces éléments rétro-réfléchissants. C'est une bonne piste, donc c'est pas très compliqué et ça pourrait faire avancer les choses.
On peut aussi acheter des autocollants réfléchissants à coller aussi sur les bretelles avant du sac à dos, car sur la route, on doit marcher à revers des voitures.
Et Mathilde Dehimi, cet après-midi, un rendez-vous sur France Inter. Si vous écoutez notre radio entre 15h et 17h, vous pourrez entendre ceci.
Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout. Chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous.
Et vous avez peut-être reconnu François Morel, et vous ne l'entendiez pas, mais il y a aussi la chanteuse Juliette, et tous les deux ils rendent hommage au roi de la pompe, Georges Brassens, mort il y a tout juste 40 ans. On célèbre d'ailleurs également son centenaire en ce mois d'octobre. Et pour cette double occasion, France Inter vous diffuse cet après-midi de 15h à 17h, donc un concert exceptionnel donné au théâtre Molière de Sète, bien sûr, la patrie du chanteur, spectacle à créer par François Morel, la chanteuse Juliette et quelques complices aussi.
Moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous.
Le menu. Et nous à 8h12 sur France Inter, on a rendez-vous avec le sport.
Bonjour Laetitia.
Bonjour.
On commence par un but qui entre dans les annales de la Ligue 1 de football.
Le but peut-être le plus lointain mesuré dans l'histoire du championnat. Cette frappe à 68 mètres, c'est le joueur de Saint-Etienne, Wahbi Khazri, qui l'a inscrite hier sur la pelouse de Metz. Bon, malheureusement, ça n'a pas suffi aux Verts pour s'imposer. Score final 1-1. Reste que le Tunisien, il a réalisé un chef-d'œuvre, Kevin Baudreau.
Oui, un but venu d'ailleurs, mais qui ne tombe pas de nulle part. Voilà des années que Wahbi Khazri tentait d'inscrire un lob du milieu de terrain. Il fallait donc attendre cette désormais historique 16e minute de jeu sur la pelouse de Saint-Symphorien pour voir le Tunisien inscrire l'un des buts les plus lointains de toute l'histoire du championnat de France. Mais trêve de superlatifs et de statistiques, on laisse l'artiste nous conter son chef-d'œuvre.
Je remonte le ballon et en fait j'ai zéro solution. Je le vois très avancé et je me dis que je pense que c'est la seule solution de tenter. Et puis et après, voilà, il faut de la réussite pour que ça rentre.
Tu l'avais déjà tenté ?
Oui, ah oui, plusieurs fois. Et non.
Et quand ça rentre, on devient...
On est content.
Wahbi Khazri, qui considère avoir inscrit le plus beau but de sa carrière, un geste de génie, de création pure, il n'avait pas spécialement remarqué hier que le gardien messin jouait loin de ses cages.
Non, 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 à aucun moment je me dis que voilà, je vais faire ça dans le match. Comme je l'ai dit, je monte avec le ballon, je vois que j'ai pas trop de solutions et je le vois super avancé. Du coup, je me dis que c'est le geste à faire et j'ai la réussite qui rentre.
Un geste qui rapporte donc seulement malheureusement un petit point au vert, toujours dernier. L'urgence reste donc entière, mais avec ce garçon qui a inscrit 7 des 12 buts stéphanois, on se dit que tout est encore possible.
Et la 12e journée de Ligue 1 se termine aujourd'hui avec 7 rencontres au programme. Hier soir, Lens a mis en danger sa place de deuxième en s'inclinant 2-1 face à l'Olympique Lyonnais.
Et Laetitia, il y a aussi du rugby dans l'actualité sportive. On a revu des sourires au stade Mayol à Toulon hier.
Après une semaine mouvementée et un changement d'entraîneur, Toulon renoue avec la victoire selon la formule consacrée. Une victoire sur Biarritz, synonyme de 11e place au classement ce matin. C'est Bordeaux-Bègles qui est aux commandes à l'heure qu'il est grâce à sa victoire sur Clermont. Il reste une très belle affiche ce soir pour le compte de cette 9e journée Top 14 Racing 92 Stade Toulousain.
Et puis 18 000 coureurs et coureuses aussi se préparent sur la ligne de départ à Marseille en ce moment même.
Pour participer à la célèbre course Marseille-Cassis, 20 km jusqu'au cœur des vignes de Provence. Et tant pis s'il pleut ou s'il y a du vent ce matin à Marseille, les concurrents sont surmotivés. Sophie et son mari, par exemple, ont fait 1000 km pour venir. Ils viennent de Dunkerque. Et ce n'est même pas la première fois.
On est très étonnés parce qu'on n'a jamais vu de pluie à Marseille, mais nous on a tellement l'habitude de la pluie et du vent qu'on se dit qu'on sera peut-être favorisés. C'est la première fois qu'on le fera sous le mauvais temps parce que les trois fois où on est déjà venu, il faisait super beau. On est très contents de remettre des dossards après 2 ans sans course officielle avec le confinement. Donc même qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on sera super contents de la faire. De toute façon, les dossards sont pris depuis longtemps, on peut pas se dire on va pas courir parce qu'il pleut. Enfin, nous on a tellement l'habitude de courir sous la pluie qu'on est rodés, le vent, la pluie, on connaît. Enfin, j'espère que ça sera pas tempête.
Ouais, on espère quand même. Le départ de Marseille-Cassis est dans à peine un petit quart d'heure maintenant, à 8h30.
Et merci Laetitia Bernard.
Dans le journal de Gaëtan Plénet, le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Avec un peu moins de pluie qu'hier, Jean-Michel Golinski.
Les pluies du quart sud-est faiblissent nettement par rapport à hier, mais dans l'ensemble, le temps perturbé reste d'actualité aujourd'hui sur la France. On observe actuellement 2 corps pluvieux principaux. Le premier s'étend du Languedoc au Val-de-Saône jusqu'au Grand Est et de la Corse aux Alpes, avec des pluies marquées ce matin dans le quart sud-est, mais en nette atténuation en seconde partie de journée. Le vent d'est très turbulent ce matin près de la Méditerranée va également faiblir. Une autre zone pluvieuse attaque le pays par la Bretagne, avec à l'intérieur du vent d'ouest assez fort et des pluies parfois orageuses. En journée, ce système va avancer vers l'est, atteignant le Midi-Pyrénées, le centre, le bassin parisien, le nord et les Ardennes à la mi-journée. En soirée, il viendra s'échouer sur les frontières du nord-est et du centre-est. Après le passage de ces pluies, le ciel va s'éclaircir, mais le vent va rester soutenu et on ne sera pas à l'abri d'averses.
Jean-Michel Golinski, Météo France.